Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Jean-Mélène Bitti.
Il est 7 heures partout en Côte d'Ivoire. Merci de vous informer sur Radio de la Paix, au sommaire. Plus de 122 recettes de services des ministères passeront en recettes fiscales, une décision qui émane du Conseil des ministres de ce mercredi. Les explications de cette mesure avec le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, dès l'entame de ce journal. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, veut donner un coup d'accélérateur dans la lutte contre le travail des enfants. Cette thématique était au centre d'un atelier récemment à Abidjan. Les détails dans cette édition. Sur le continent au Sénégal, le changement climatique d'origine humaine derrière la vague de chaleur meurtrière au Sahel a déclaré dans un rapport la structure World Weather Attribution. La revue des titres de vos journaux de ce jour sera assurée par Ghislain Koulibaly. Et en toute fin d'édition, on aura comme l'invité de la rédaction Pulchérie Gbalé. Avec elle, il sera question de la campagne de sensibilisation à l'endroit des populations pour, dans la perspective des élections générales de 2025. Elle est la présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne ACI. Voici pour l'essentiel. Mesdames et messieurs, bonjour. De nombreux sujets d'ordre économique, énergétique, politique et sécuritaire ont été abordés en Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 avril 2024 au Palais de la Présidence au Plateau et présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Les détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
Les recettes de services qui ont été identifiées dans différents ministères seront transformées en recettes fiscales. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Les recettes de services, ce sont des recettes que les ministères percevaient pour certains services qu'elles rendent. Ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère, mais plutôt directement au budget de l'État.
La Côte d'Ivoire est l'un des quatre pays de l'Afrique subsaharienne qui vont désormais intégrer la Banque européenne pour la reconstruction et le développement comme pays membre. Mais quel intérêt pour la Côte d'Ivoire ? La réponse du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Les pays qui sont membres de cette banque peuvent bénéficier de certains financements, d'où l'intérêt pour notre pays à rentrer dans cette banque-là. C'est la marque de la confiance qui est faite à la solidité de notre économie. Et évidemment, tous les pays qui sont membres ont des facilités en termes de financement de leurs projets de développement.
La situation sécuritaire aux frontières nord de la Côte d'Ivoire a également été évoquée par le porte-parole du gouvernement.
Nos frontières sont ce qu'elles sont et ne sont pas totalement tracées. Il existe une commission au niveau de la CEDEAO qui travaille à la délimitation des frontières. Mais en attendant, lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources nécessaires pour pouvoir donc les régler. Et c'est ce qui va se passer avec le Burkina. Et très vite, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 8 mai 2024.
Parlons de la vie des institutions. Un projet de loi modifiant la loi portant code de la nationalité a été adopté le mardi 16 avril 2024 à Yamoussoukro à l'unanimité des membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités du Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, revient sur l'importance de ce test.
Le président de la République, dans sa volonté de lutter efficacement contre la fraude sur la nationalité, a décidé la mise en œuvre de plusieurs moyens d'action. Le premier moyen d'action a été la création d'un bureau central de la naturalisation, dédié exclusivement à la réception et à l'examen des demandes de naturalisation et comprenant en son sein tous les intervenants dans le processus de naturalisation. Ce processus échappe à tout intervenant extérieur aux services concernés et à toute velléité de fraude. Le deuxième moyen d'action, c'est la lutte contre la fraude documentaire, notamment en matière d'état civil, point de départ de la fraude sur la nationalité. Le troisième moyen d'action est la lutte contre les mariages de complaisance, objet du présent projet de loi. Dorénavant, l'étranger qui épouse un Ivoirien ne pourra pas acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne. L'acquisition de cette nationalité par le conjoint étranger est soumise à certaines conditions essentielles, dont celle qui consiste à souscrire une déclaration à cet effet devant l'autorité compétente 5 ans à compter de la célébration du mariage. Ensuite, la preuve d'une vie en commun entre le conjoint étranger et l'Ivoirien qui matérialise en fait l'effectivité du mariage. Il faut dire que ce délai de 5 ans peut être amené à 3 ans en présence de 2 enfants du couple.
Jean Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était au micro de Émile Yao. Dans le cadre des préparatifs des prochaines opérations électorales, notamment la révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante, CEI, procédera à la mise à jour de la cartographie électorale. Opération qui va se dérouler sur l'étendue du territoire national. On écoute l'éclairage de Dr Landria Moussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Pélifrogon de Korogo.
Cette cartographie s'inscrit dans la droite ligne de sa mission. L'échéance qui arrive, je crois que c'est en 2025, elle doit actualiser ses données. Il y a eu de nouveaux majeurs. Elle va également vérifier si les bureaux de vote qui étaient préalablement définis pour les anciennes élections sont encore adaptés. Elle a vraiment besoin de cette cartographie pour actualiser ses données, pour faire des propositions parfois à l'exécutif aussi. L'objectif, c'est d'actualiser et la finalité, c'est d'éviter effectivement qu'il y ait énormément de contestations. Parce que vous savez, en Afrique, c'est assez récurrent, nos élections sont souvent soumises à beaucoup de contestations. C'est une procédure habituelle qui permet de se rapprocher autant que faire se peut de la sincérité du scrutin.
Que vous inspire donc cette volonté des politiques de pouvoir s'impliquer ?
Oui, alors le libellé même de l'institution déjà permet de clore le débat. Il s'agit d'une commission indépendante. Donc en réalité, c'est aux politiques de s'accorder, surtout dans le contexte africain, il faut qu'on s'accorde sur les modalités. Mais en même temps, nous avons des échéances politiques dans quelques années. Est-ce qu'il faut organiser continuellement des tables rondes avec l'opposition ou bien l'exécutif, ou bien mettre en place des concertations ou seulement s'intéresser aux aspects techniques? C'est énormément de questions qu'on doit régler dans peu de temps. L'idéal aurait été qu'il y ait constamment des séances de travail, mais sans pour autant freiner la mission qui a été confiée à cette commission. C'est à elle de trouver les voies et moyens pour que tout le monde s'accorde sur le bien fondé de sa mission.
C'était à l'instant Dr Landry Amoussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Pélifrogon de Korogo. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, veut accélérer la lutte contre le travail des enfants, notamment dans la chaîne d'approvisionnement en Afrique. Une équipe vient de se rendre dans les communautés des zones d'activité identifiées, Grand Zatri et Mbato, afin de recueillir des données. Un atelier de restitution a eu lieu le mercredi 17 avril 2024 à Abidjan. Junior Cardin pour plus de détails.
Ces travaux de réflexion sur l'élimination du travail des enfants s'inscrivent dans le cadre du projet Axel Africa phase 2 qui se concentre sur les causes profondes de ce fléau. Minoru Ogasawara, conseiller technique principal de ce projet, en indique la particularité.
Le projet Axel Africa fondé sur le succès de la première phase du projet. On va vraiment développer les stratégies pour lutter efficacement contre le travail des enfants, notamment dans la chaîne d'approvisionnement en Afrique.
Mais quelles sont les chaînes d'approvisionnement répertoriées dans ce projet? Un élément de réponse avec Kofi Paul Agenor, coordonnateur national du projet Axel Africa en Côte d'Ivoire.
Nous avons ciblé les chaînes d'approvisionnement du cacao et de l'or dans 2 régions du Morono et de la Nawa. Donc l'approche innovante que nous utilisons dans le cadre de ce projet Axel nous permet d'avoir la conviction que nous allons apporter une contribution significative à la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Donc dans leur paillage, nous comptons accompagner les structures étatiques à soutenir des mines artisanales clandestines à se formaliser en petites mines régulières, légales et qui vont donc intégrer dans leur fonctionnement les principes fondamentaux des droits au travail qui sont promus par l'OIT.
Ce projet est une opportunité, au dire de Kokora Jonas, coordonnateur du comité intersyndical de lutte contre le travail des enfants.
Grâce à l'opportunité que nous offre le projet Axel Africa, il est important que nous puissions voir les réalités au quotidien des travailleurs, aussi les solutions pour l'éradication de la pauvreté endémique qui est l'une des causes profondes du travail des enfants.
Les résultats sortis de ce projet vont servir donc à soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire.
Parlons de sécurité routière et surtout sur l'incivisme. Une semaine après la 15e édition de la semaine de la sécurité routière tenue du 3 au 10 avril dernier sur l'ensemble du territoire national, le conseiller technique chargé de la coordination des actions de la sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kouakou, était l'invité de Tout Savoir Sûr, une tribune d'échange et d'information initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG.
C'est un défi que nous pensons pouvoir relever si tout le monde s'engage à cela. D'abord, les conducteurs eux-mêmes qui doivent respecter les règles de circulation, qui ne doivent pas être mus par d'autres motifs que, quand ils sont sur la route en tout cas, la sécurité, l'observation de la sécurité routière. Donc l'incivisme sur la route constitue un grand défi et nous pensons que les efforts conjugués de sensibilisation mais aussi de répression peuvent contribuer à cela. Et en ce qui concerne les mesures de répression, vous avez aujourd'hui la vidéo-verbalisation que nous avons mise en place. Le déploiement de la vidéo-verbalisation permet aujourd'hui d'avoir une surveillance du réseau routier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de telle sorte que le conducteur se sent constamment suivi sur le réseau routier. Et donc, il est beaucoup plus enclin à observer les règles de circulation. À côté de cela, la présence des forces de l'ordre, même si elle n'est pas permanente, mais devrait pouvoir amener les conducteurs à avoir un comportement beaucoup plus délicat. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que, de façon générale, la peur du gendarme n'est plus de mise.
Vous écoutiez le conseil technique chargé de la coordination des actions de sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kouakou, au micro de Mata Touré. Sur le continent, au Sénégal, la vague de chaleur meurtrière qui a frappé le Sahel début avril est liée au changement climatique d'origine humaine, affirment les scientifiques du réseau World Weather Attribution dans une étude publiée ce jeudi. Cette vague de chaleur aurait été plus fraîche de 1,4 degrés Celsius si les humains n'avaient pas provoqué le réchauffement de la planète en brûlant des énergies fossiles, assurent les auteurs du rapport. Place à présent à la revue des titres de vos journaux de ce jour avec Ghislain Koulibaly. Bonjour Ghislain.
Bonjour Mélène, bonjour à toutes et à tous. C'est le Conseil des ministres d'hier qui rythme le ton des infos aujourd'hui avec plusieurs décisions et nominations. Et commençons avec Fraternité Matin qui y consacre entièrement sa une. On peut lire en grand caractère « Conseil des ministres, frais administratifs, 122 nouvelles recettes de services visées ». Le mandat précise pourquoi ces recettes seront désormais dans les caisses de l'État. L'Inter touche d'autres angles abordés par le porte-parole du gouvernement, à savoir la situation sécuritaire au nord, les militaires burkinabés arrêtés, la candidature de Laurent Gbagbo, le cas Soro et Blégoudé. Parlant de l'éligibilité de Gbagbo, Amadou Koulibaly explique que c'est une décision de justice. À ce propos, le quotidien d'Abidjan s'interroge. Pourquoi la candidature de Gbagbo trouble le sommeil? Et puis, il a aussi été question du prix du cacao pendant ses échanges lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres. Intéressons-nous à cette matière première, poumon de l'économie ivoirienne, en prenant la direction du Ghana, où séjourne en ce moment le Premier ministre Beugré Mambé et le ministre de l'Agriculture Kobenan Kwasi Adjoumani pour l'inauguration du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana qui vient pour rassurer les producteurs, nous dit le ministre de l'Agriculture. Le mandat fait en tout cas un gros plan sur l'ouverture de ce siège. Une nouvelle reluisante au niveau de la sécurité routière avec la vidéo-verbalisation. Le nombre de tués lors des accidents a baissé de 20%, nous fait savoir le Patriote. Terminons Mélène, avec un brin d'humour dans lequel nous plonge le confrère Biche sur l'interdiction de l'aphrodisiaque atoté. Le journal affiche, on va voir les vrais debout dans pays là.
Merci à vous Ghislain Koulibaly, on vous retrouve à 8h dans le même exercice. Notre invitée de la rédaction pour refermer ce journal est la présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne ACI. Avec Junior Cardin, Pulcheri Balé aborde les questions d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations dans la perspective des élections de 2025 en Côte d'Ivoire.
Madame Pulcheri Balé, bonjour.
Bonjour monsieur.
On apprend que votre structure organise une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations dans la perspective des élections de 2025. Vous confirmez ?
Oui, absolument, absolument. Nous allons commencer à partir de la mi-mai.
Et pourquoi cette campagne ?
C'est très simple. Les enjeux de 2025 sont très importants, alors que nous avons remarqué que malheureusement, les populations sont très corruptibles et elles prêtent le flanc à tous ceux qui essaient d'acheter leur conscience. Donc nous avons décidé d'aller dans la Côte d'Ivoire profonde, rencontrer tous les Ivoiriens pour leur enseigner les critères sur la base desquels on devrait voter en principe et aussi les valeurs démocratiques afin que en 2025, les votes soient plus responsables malgré les cadeaux. La deuxième chose, c'est que notre organisation a décidé d'avoir des députés aux prochaines législatives parce qu'on n'a qu'un seul député qui joue le rôle de député en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Assalé Thiémoko et ce n'est pas normal. Donc nous estimons que la prochaine législature doit avoir des députés issus de la société civile pour rendre l'Assemblée nationale beaucoup plus dynamique.
Oui, mais il n'y a qu'un seul député en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous donne donc la possibilité de le dire ainsi?
Non, mais ce sont les faits. Il n'y a qu'un seul député qui communique avec le peuple. Il n'y a qu'un seul qui nous rend compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et pourtant, tous les députés, en dehors de leur salaire qui est payé sur l'argent du contribuable, ils ont en plus une indemnité trimestrielle pour justement venir vers nous, nous rendre compte et nous consulter. Et ce n'est pas le cas. Même les députés de l'opposition ne sont pas capables de jouer ce rôle. Il y a un problème.
Comment va se faire donc cette campagne de façon concrète?
De façon concrète, nous allons faire un programme et visiter vraiment toutes les régions du pays. On ira même dans les campements, mais en tout cas, elle sera nationale.
Et sur le terrain, qui seront vos interlocuteurs directs?
Particulièrement les jeunes, les femmes et puis les associations. Tous ceux qui ont une influence sur les autres.
Et puis, Cédric Balé n'a pas peur qu'on la traite déjà de mettre les pieds dans le plat par rapport aux élections qui ne sont pas encore annoncées?
Si on avait peur, on ne s'y aventurerait pas. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Nous, on a coutume de dire qu'il n'y a rien qui ne soit politique dans cette vie. Même le développement est politique. La gestion familiale est politique. Donc, nous, on est fiers de faire la politique citoyenne. On n'est pas dans la politique politicienne et il est de notre devoir de sensibiliser les populations et c'est ce que nous allons aller faire. Ce n'est pas une campagne pour aller présenter un candidat.
Et quelle est la fourchette de temps pour cette campagne?
On commence la mi-mai 2024, on finit fin mars 2025.
Et en attendant, quel est le message que vous avez à l'endroit des populations que vous allez visiter d'un moment à l'autre?
Nous voulons dire à ces populations qu'il est temps que les gens comprennent qu'en dehors des partis politiques, il y a d'autres acteurs qui ont leur place dans le jeu politique. Notamment la société civile. Nous, on nous appelle société civile engagée. Ça veut dire que tout ce qui engage l'intérêt du peuple, que ce soit des sujets politiques ou sociaux, nous nous y intéressons et nous prenons surtout position. Il y a des gens qui ont choisi l'option de la neutralité et nous nous estimons que la neutralité dans un contexte où il y a beaucoup d'injustice, c'est une forme de lâcheté. Donc nous voulons dire à ces populations-là que nous sommes là pour les aider à être plus responsables, pour les éduquer aux valeurs démocratiques, aux critères qui devraient guider le choix de quelqu'un. Après, c'est elles qui décident.
Voilà. Et aux autres partenaires donc des élections en Côte d'Ivoire?
Aux partis politiques, nous voulons leur demander de se réveiller, surtout l'opposition. On ne les comprend pas. Nous avons traversé des décennies de crise et il y a encore beaucoup de questions qui sont en suspens par rapport aux élections, notamment le découpage électoral. Et là, la CEI a annoncé que tout le mois d'avril 2024 sera consacré à la mise à jour de la cartographie électorale. Et on ne voit pas l'opposition réagir, alors que c'est maintenant, en 2024, que nous devons adresser toutes les questions qui pourraient constituer des sources de conflits en 2025. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit le pouvoir qui convoque un dialogue politique. Le dialogue politique peut être aussi suscité par l'opposition. Et nous pensons que c'est en 2024 là que toutes les questions fâcheuses devraient être réglées. Au pouvoir, nous voulons demander un peu plus de démocratie. Nous, en tant que société civile, là, on joue notre rôle. Quand on écrit aux institutions étatiques, par rapport à certaines thématiques, on n'obtient pas de réponse. C'est pas comme ça que l'administration devait marcher. La moindre des choses quand on reçoit un courrier, c'est de faire un accusé de réception et de répondre. Ils ne répondent pas au courrier. Donc, quand nous, on n'a pas d'interlocuteur pour aborder les questions sérieuses, on est obligé de manifester. Donc, on voudrait que vraiment l'État et l'administration s'ouvrent au jeu démocratique. Ça pourrait les aider à mieux gouverner.
Pulchéri Balé, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutiez à l'instant Pulchéri Balé, président de ACI, sur la campagne de sensibilisation des populations dans la perspective des élections de 2025. Elle était l'invitée de la rédaction. Nous arrivons au terme de notre édition, mais avant le rappel des titres. Plus de 122 recettes de services des ministères passeront en recettes fiscales, une décision qui émane du Conseil des ministres tenue ce mercredi au palais présidentiel. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, veut donner un coup d'accélérateur dans la lutte contre le travail des enfants. Cette thématique était au centre d'un atelier récemment à Abidjan. Sur le continent au Sénégal, le changement climatique d'origine humaine derrière la vague de chaleur meurtrière au Sahel a déclaré dans un rapport la structure World Weaver Attribution. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la rédaction, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.